jour, de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec David Brocouet à la réalisation, pour revisiter toutes nos idées reçues sur la nature, y compris humaine. Non, la nature n'est pas bien faite. Vivre, ce n'est pas être autonome, mais nouer des liens, en bonne interdépendance. Et si nous ouvrions les yeux sur le vivant, tous les vivants qui nous entourent, animaux, végétaux, bactéries, champignons, pourquoi et comment leur observation, leur étude, nous invite à une autre compréhension du monde, à une autre manière d'habiter la Terre. C'est le credo de notre invité, le professeur Marc-André Sellos du Muséum National d'Histoire Naturelle. Cet éminent spécialiste des sols et des symbioses, c'est-à-dire des associations à bénéfice mutuel, grand défenseur des sciences naturelles et grand connaisseur des champignons, est aussi conteur et auteur d'ouvrages remarquables et remarqués, Jamais seul, ou Les goûts et les couleurs du monde. Son dernier opus, Nature et préjugés, vient de paraître chez Actes Sud avec ce sous-titre Convier l'humanité dans l'histoire naturelle. Sacré programme, bucoliste, humaniste, chatoyant et sombre à la fois, qui tout en nous secouant autant qu'il nous émerveille, nous remet à notre place de vivant parmi les vivants. Enfin reconnecté à la nature, à notre nature peut-être, autour de la question comment mieux habiter la Terre en toute connaissance de cause. Bienvenue à la source de cette réinspiration, de ce réenchantement du monde, avec un philosophe qui inspire beaucoup notre invité, Marc-André Sellos, et pour cause, c'est le philosophe du vivant, Baptiste Morisot.
Il s'agit de réapprendre, de comprendre que nous nous sommes trompés sur qui rend la Terre habitable. Ici, on est dans un lieu qui est assez fascinant puisqu'il est produit en totalité par l'intelligence et la technologie humaine. Et vivre dans des espaces de ce type, ça crée un biais qui est prodigieux. C'est qu'on finit par croire que nous sommes responsables de l'habitabilité du monde. C'est nous qui rendons la planète habitable. Et bien, il s'agit de remettre les choses à l'endroit. Nous bénéficions quotidiennement du fait que les autres formes de vie rendent le monde habitable pour nous et pour tout le monde. Les végétaux assurent l'habitabilité de la planète en produisant l'oxygène qu'on respire. Les pollinisateurs assurent l'habitabilité de la planète en générant la fécondation des plantes à fleurs, la totalité ou une très grande partie de ce qu'on mange. Les vers de terre assurent l'habitabilité de la planète en rendant possible les récoltes. Et les forêts alluviales rendent possible l'habitabilité de la planète. Ce n'est pas nous. Et ça, c'est absolument central pour moi parce que ça permet de contourner cet héritage suivant lequel les questions écologiques, c'est pour ceux qui aiment les jolies fleurs ou c'est pour les amis des bêtes. Ça n'a rien à voir avec être un ami des bêtes. Ça a à voir avec être au clair sur qui rend la planète vivable, qui rend notre vie vivable quotidiennement. Nous avons coévolué avec eux, nous ne pouvons pas continuer à habiter cette planète sans eux.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour réparer, justement, renouer ce lien au vivant qui rend notre terre habitable, comme vient de le rappeler Baptiste Morisot. Pourquoi nous sommes-nous tant coupés du monde et de la vie ? S'interroge pour sa part Éric Orsenna dans la préface de votre nouvel ouvrage, Marc-André, Nature et préjugés, dans lequel, pour convier l'humanité dans l'histoire naturelle, c'est le sous-titre de votre essai, vous commencez par vous attaquer à nos préjugés sur la nature, entre guillemets. Et ils sont nombreux, hein, ces préjugés.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais vraiment réfléchi à ce qu'était la nature et notre lien à la nature. Du coup, on hérite pêle-mêle de vagues réminiscences de l'Antiquité, de l'héritage judéo-chrétien, des Lumières, et on construit, comme le montre très bien Philippe Descola, autre philosophe à mettre à côté de Baptiste Morisot dans
Absolument.
L'inspiration de mon travail, hein, on construit une vision de la société qui est séparée de la nature. Vous dites renouer des liens. Mais en réalité, ils sont toujours noués, ils sont toujours là. Simplement, comme on ne les connaît pas, comme on les méconnaît, eh bien, ils ne peuvent que nous nuire. On voit très bien qu'aujourd'hui, notre façon de gérer la nature nous nuit parce que nous avons toujours des liens avec elle. Quand on met des pesticides dans nos champs, en réalité, eh ben, maintenant, bien que ce soit interdit depuis 1998, tous les Français ont du lindane dans le sang. Voilà. Et qui est un pesticide pas très très bon pour la santé. Ça c'est vraiment important parce que ça veut dire que ces liens ont toujours existé. Ce qu'il faut, c'est non pas vraiment les renouer, mais les requalifier, les réfléchir pour les utiliser mieux et ne pas subir simplement les conséquences de
leur
existence.
Voilà pourquoi vous dites qu'il faut observer, finalement, qu'il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder. Alors, vous nous y aidez largement, hein. Marc-André Sellos, je rappelle que vous êtes quand même professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste des sols, spécialiste des symbioses. En fait, vous nous réapprenez ou vous nous dites, il suffit d'observer, de regarder la nature pour se rendre compte que, alors premièrement et premier préjugé, la nature est bien faite. pas tout à fait vrai. Hein. Vous rayez hein, pas mal de ces préjugés bah, oui. dans les chapitres.
Il suffit de regarder. Oui, non, il faut regarder avec intelligence éventuellement en utilisant des gens qui ont l'habitude de regarder et de discerner les choses. Quand vous voyez un lapin qui saute ou une gazelle qui saute, bah, vous vous dites, oh, c'est bien fait. Mais combien de celles qui sont nées avec la bête qui saute, sont mortes. Mortes dans le jeune âge, mortes de maladie. Combien sont en train de mourir? En quelque sorte, quand on voit la biodiversité, on voit souvent ceux qui ont réussi. Mais on ne voit pas en creux ceux qui n'ont pas réussi. L'évolution est assez cruelle. Elle donne moins de descendants, voire elle tue assez rapidement ceux qui ne sont pas bien adaptés. Donc évidemment, ensuite, quand ceux qui sont adaptés se reproduisent, ils produisent des descendants qui sont adaptés comme eux. Donc ça a l'air de marcher. Mais en creux, c'est dur. Dire que la nature est bien faite, c'est admettre qu'il est normal que nous devenions orphelins. Bah oui, on perd tous nos parents à un moment ou à un autre, ou le pire encore, c'est le cas où les parents perdent leurs enfants. Je veux dire, la mort fait partie de ce que la nature a mis en place autour de nous. Dire que la nature est belle, c'est acceptable parce que c'est un jugement esthétique, c'est en nous ce jugement-là. Mais dire qu'elle est bien faite, un, à mon sens personne ne l'a faite, et deux, elle est faite de ce qui survit, et c'est pas toujours bien. Dans toutes les populations qui ont appris, et ça c'est un trait culturel, à cultiver des céréales et à manger donc beaucoup d'amidon, ça a sélectionné des individus qui sont plus dont la salive digère mieux l'amidon. C'est normal, c'est une adaptation. Ça veut dire en creux que ceux qui digéraient moins bien l'amidon dans leur salive ont eu moins de descendants et n'ont plus de descendants à l'heure actuelle. Hein. Bon, ils se sont éteints progressivement. Mais le fait d'avoir une capacité à digérer l'amidon dans la bouche, ça fait qu'on a beaucoup plus de sucre dans la bouche. C'est là qu'est née la carie. La carie est une maladie des civilisations agricoles qui mangent beaucoup de céréales parce qu'elles ont le blé, le riz ou le maïs. Voilà, la carie n'existait pas avant l'agriculture et avant la sélection d'individus adaptés à l'alimentation agricole. Est-ce que c'est bien fait? C'est sûr que ça n'empêche pas de se reproduire d'avoir des caries. Mais quand on n'a pas de dentiste, c'est super chiant.
D'avoir des caries, voilà pourquoi vous rayez ce « La nature est bien faite hein, » dans votre chapitre, dans cet ouvrage « Nature et préjugés » pour le remplacer par « Survivre qui peut et à tout prix ».
Survivre qui peut. Et à tout prix, au prix même d'ailleurs d'abîmer les autres. Et c'est là le début des bêtises dans la nature. Et c'est là qu'on se dit, dans nos cultures, nous, on peut essayer de se dire, bon, ok, on ne va pas laisser une simple compétition agir dans nos sociétés. Il faut qu'on l'organise pour minimiser le nombre de victimes et optimiser le chemin parcouru. Ça, on peut l'organiser. Mais il faut comprendre que par défaut, si on laisse les choses courir, ben, on voit émerger les plus compétitifs, on voit émerger ceux qui font le plus de descendants à tout prix.
Donc il faut aussi réviser, c'est-à-dire que rien n'est simple, c'est assez complexe. Évidemment qu'il faut favoriser la coopération plutôt que la compétition, mais c'est au fond un acte qu'il faut faire. Là, c'est un choix en fait qu'il faut faire, mais en toute connaissance de cause.
Absolument. En fait, vous utilisiez dans l'introduction ces deux mots qui sont dans mon introduction, chatoyant et sombre. Ouais, Le monde, il est chatoyant et sombre, et nous, on peut commencer à essayer de s'inspirer de ça. Vous parliez aussi de la coopération, de la symbiose. Moi, je travaille sur des organismes d'espèces différentes qui sont associés ensemble. Et j'en parle dans le livre. Ça existe, la coopération dans le monde vivant, notamment la coopération entre espèces, ou même au sein de l'espèce. Mais quand on examine les choses de près, il y a toujours un risque que se glisse un organisme qui va utiliser cette relation en prenant ce qu'elle a de bon pour lui et en ne donnant rien, ce qui lui permet d'avoir plus de ressources pour lui et donc plus de descendants et donc potentiellement d'envahir le système. Et quand on examine de près les coopérations, on s'aperçoit qu'elles sont rendues possibles dans certaines circonstances qui les favorisent et qui limitent par des traits de réponse du partenaire ou par des circonstances environnementales qui limitent la possibilité de tels individus tricheurs...
Ou parasites,
qui sont des parasites, c'est des tricheurs dans le cadre de ce qui est une relation, normalement, de coopération. Et donc, il y a réellement une construction, c'est-à-dire que ça a émergé parce que tous les cas ou tous les organismes qui pouvaient se faire utiliser ont été lentement contre-sélectionnés et seuls ceux qui avaient des stratégies pour empêcher leurs partenaires de les utiliser ont survécu. Donc, on peut coopérer, mais c'est une construction. Par-dessus une tendance à la compétition ou à l'abus qui est inhérente au vivant. Puisque la règle, c'est de faire plus de descendance et pas d'aider les autres.
C'est ça, la règle du vivant, c'est de faire plus de descendance et pas d'aider les autres. Mais en même temps, en étudiant notamment les champignons, le sol, les symbioses avec les arbres, vous avez quand même mis au jour toutes ces symbioses dont on pourrait s'inspirer. Or, on ne fait pas ça du tout.
Oui, bah, alors, plus ou moins, mais c'est vrai que dans nos sociétés, par exemple, on fait l'éloge de la compétition, on appelle ça la concurrence, en oubliant que la concurrence, ça a trois gros défauts. Un, quand on est en présence d'un concurrent, on fait moins bien ses activités parce que l'autre vous empêche de les faire bien. Deux, une des façons d'arriver à reprendre la main, c'est d'investir dans des fonctions qui abîment l'adversaire. C'est les antibiotiques, par exemple, des microbes. Les antibiotiques des microbes, c'est des choses pour abîmer les autres microbes et éviter que ces autres microbes viennent manger les ressources du microbe qui émet les antibiotiques. Dans nos sociétés, c'est la publicité. Les Français, par exemple, payent 500 euros de publicité tous les ans. Quand vous achetez une chaussure ou un livre, comme le mien, vous payez aussi la pub. Et ça, en moyenne, un Français paye 500 euros pour la publicité par an. Et la publicité, c'est une façon de faire de la compétition. Ça entraîne un surcoût, c'est ce que je disais. Et puis la dernière chose, c'est que à la fin du jeu, si vous laissez la compétition courir sans régulation, alors il y en a dans la nature, il peut y en avoir dans les sociétés, mais vous sélectionnez juste le plus compétitif, pas le plus efficace. C'est-à-dire celui qui ennuie le plus les autres. Par exemple, ça s'appelle une forêt, ça. Dans une forêt, vous avez des plantes qui investissent démesurément dans la croissance du tronc, au point qu'elles ne peuvent pas faire de graines avant 15, 20, 30 ans pour un chêne, par exemple, qui, tous les ans, font grossir leur tronc et font très peu de graines parce qu'elles investissent pour avoir les feuilles plus haut que les autres et empêcher les autres d'avoir de la lumière. Et quand on y pense, ce n'est pas du tout bien fait, ce truc-là. D'ailleurs, quand on veut faire produire des fruits à un arbre, qu'est-ce qu'on fait ? On le taille pour l'empêcher d'avoir trop de branches à faire grossir et du coup, il peut remettre plus d'énergie à faire des fruits. Rappelons que les fruits, c'est ce qui contient les descendants, c'est ce qui contient les graines. Donc, vous voyez que... Donc, ça se régule, au fait. Ça se régule.
Alors, pourquoi réguler, justement ? Et comment, surtout, comment réguler la nature ? Autour de la question, pourquoi, justement, la nature n'est pas si bien faite que ça, mais comment s'en inspirer ? Question, justement, à l'envers, soulevée par un éthologue, spécialiste des oiseaux, Gérard Leboucher, qui était récemment notre invité. Il est toujours, d'ailleurs, l'auteur d'un ouvrage intitulé « Dans la tête d'un oiseau ». Il y a une question pour vous, on l'écoute.
La question que je voudrais lui poser est la suivante. Qu'est-ce que le vivant nous apprend sur nous ? Les champignons, par exemple, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous en tant qu'êtres vivants ?
Votre réponse, Marc-André Simos.
Alors, c'est une question transcendantale et considérable.
On a deux heures. Oui, c'est ça, bien sûr.
Mais non, il y a une chose, c'est que si on les regarde en ce qu'ils sont eux-mêmes, ils nous apprennent la différence.
Les champignons.
Mais aussi les arbres, mais aussi les oiseaux, mais aussi... Ils nous apprennent la différence. C'est pour ça qu'il ne faut pas les aborder. Et ça, je n'aime pas cette idée, par exemple, de parler de l'intelligence des plantes. Parce que là, brutalement, votre intérêt pour la plante est réveillé par le fait qu'elle partage quelque chose avec vous. Vous n'allez pas apprendre grand-chose sur le reste du monde. Moi, j'aime bien... Et alors, quand on fait des champignons, les points de ressemblance avec les animaux et l'homme étant vraiment minimalistes...
Oui, c'est encore une autre catégorie. C'est encore un autre...
C'est un autre groupe. Encore que dans l'évolution, c'est le groupe le plus proche des animaux. Voilà.
Les champignons.
Oui, ce sont nos frères, nos frères en évolution. Mais enfin, quand même, il y a un bon milliard d'années au moins qui s'est écoulé depuis l'ancêtre commun, et ils sont devenus très différents. Et si vous les examinez en ce qu'ils sont, vous découvrez d'autres façons de vivre, d'autres logiques de vie, d'autres contributions au fonctionnement des écosystèmes. Et puis, potentiellement, vous découvrez des outils. Certains antibiotiques, par exemple, comme la pénicilline ou l'amoxicilline, viennent de champignons. Voilà, donc il y a des choses que vous pouvez réutiliser, vous, pour lutter contre des bactéries. Et puis, ils peuvent avoir des fonctions dans les écosystèmes, comme, par exemple, dégrader des plastiques. Alors, ils ont du mal, honnêtement, et il vaut mieux pas jeter du plastique dans les écosystèmes. Mais par contre, si vous avez du plastique en masse, on commence à avoir des espèces de champignons qui sont capables de vivre de ça, et qui transforment votre plastique en champignons, et après, c'est beaucoup moins dangereux de relâcher ça dans l'environnement, et vous pouvez même éventuellement en faire des matériaux. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, en les regardant en eux-mêmes, il y a des façons de comprendre le monde d'un autre point de vue.
C'est bon, ça, d'habiter autrement le monde.
Et voilà, de voir comment il habite, exactement. Mais aussi d'en retirer des choses. Parce que moi, je pense que la nature est faite pour être utilisée. Alors, ça choque beaucoup de gens. Mais après tout, quand un oiseau fait son nid, qu'est-ce qu'il fait d'autre que d'utiliser du crin, des branches, de la mousse ? C'est le propre
mais
du vivant d'utiliser.
Mais il faut utiliser la nature comme le fait le vivant, c'est-à-dire en ayant conscience des causes et des conséquences. Alors, c'est ce que vous dites aussi. Vous dites, au fond, c'est compliqué. Vous êtes
vivant,
sur le fil, hein,
Marc-André. Non, mais je sais bien, mais le vivant, il n'a pas la conscience.
Ben non.
Nous, on a cette chance de pouvoir anticiper les conséquences.
Vous parliez des forêts tout à l'heure, une plante, elle ne décide pas. C'est sa stratégie.
Il naît arbre et il meurt arbre.
Voilà.
Nous naissons et nous apprenons. Et là, nous, on est capable effectivement d'anticiper des choses et de prévoir. Alors que c'est vrai que la nature ne prévoit pas. Et d'ailleurs, je raconte dans le livre pas mal de catastrophes qui, au cours de l'évolution, se sont passées parce que le vivant ne prévoyant pas les choses, eh bien, on a notamment eu une catastrophe lors de l'invention de la photosynthèse parce que brutalement, l'oxygène est apparu et ça a à peu près trucidé tout le monde il y a 2 milliards d'années.
C'est biosphère, ce qui nous permet d'être aujourd'hui sur Terre, mais c'est ce qui a trucidé tout le monde.
Il a fallu 1 milliard d'années pour trouver une solution pour vivre avec l'oxygène. Et notamment, sont apparus nos ancêtres qui l'utilisent. Mais ça a mis du temps à apparaître. Au moment où les premiers végétaux ont fait la photosynthèse et ont commencé à produire de l'oxygène, ça a été une catastrophe. Et donc, le vivant a déjà fait des catastrophes. L'homme n'est pas la première. C'est la première qui est une capacité d'anticipation. Et le défi qui nous est posé, c'est de savoir si, par rapport aux autres formes vivantes qui sont apparues et qui ont fait des trucs un peu bizarres, et j'en cite plein d'autres exemples dans le livre, est-ce que le fait d'avoir la conscience en plus peut nous éviter de faire des catastrophes? Franchement, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que la conscience et la capacité d'anticipation nous aient vraiment aidés à faire différemment des catastrophes qui nous ont précédés dans la biosphère.
Comment faire autrement, justement? Comment servir un peu notre conscience et de nos connaissances pour faire autrement, pour habiter autrement le monde? Je propose de réfléchir, de continuer de nous interroger sur cette immense question. À l'écoute de Bobby McFerrin sur RFI, un musicien particulièrement inspiré par tous les sons de la nature, on écoute Fertile Field, le champ fertile à tous les sens du terme, de Bobby McFerrin sur RFI. Bobby McFerrin sur RFI, Fertile Field, du champ fertile, ça c'est pour vous Marc-André Sellos. Vous êtes, je le rappelle, spécialiste des sols et des champignons et surtout des symbioses, des associations à bénéfice mutuel. Professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous venez de publier aux éditions Actes Sud un nouvel ouvrage inspirant, décapant, Nature et préjugés, illustré par Arnaud Raphaëlian, très jolie et humoristique illustration. Autour de la question qui est aussi le sous-titre de votre ouvrage, comment convier l'humanité dans l'histoire naturelle? Comment réapprendre ensemble avec les autres vivants sur Terre à rendre peut-être nos champs fertiles? Vous êtes aussi, vous venez de publier une étude à ce sujet, Marc-André Sellos, un partisan des haies. Alors avant de vous entendre sur cette question-là et sur ces écosystèmes si particuliers, je vous propose d'écouter une écrivaine, philosophe et amoureuse des haies, Sonia Fertchak, autrice d'un éloge de la haie qu'elle vous a même dédicacé
pour un
pour un désordre végétal. C'est le sous-titre aux éditions Philosophie Magazine. Notre reporter Charlie Dupiot a tendu son micro à Sonia Fertchak pour faire l'éloge de ces haies qui ont peu à peu disparu du paysage.
En fait, c'est une bande de forêt. On parle de forêt linéaire, c'est-à-dire que c'est un écosystème qui est constitué de plusieurs strates, comme dans une forêt. Il y a des hauts et des moyens arbres. Il y a des arbustes, des arbrisseaux, il y a des herbes. Elles sont souvent plantées sur des talus. Et puis avoir un fossé, une bande herbacée. Enfin voilà, elles sont constituées de strates. Et finalement, c'est comme une forêt en tranches, une forêt très riche que vous taillerez en tranches. Mais en fait, les haies, il y en a depuis que l'homme élève des animaux, parce qu'au départ, les haies étaient protectrices, défensives. On y parquait les animaux. Et donc, elles remontent à l'Antiquité, voire au Néolithique. On a trouvé des traces de haies d'abord sèches, donc constituées de végétaux secs, qui prenaient vie petit à petit. Mais donc, elles sont très anciennes. Et c'est vrai qu'il y avait autrefois des cantonniers ou des agriculteurs ou les jardiniers qui, au fond du jardin, taillaient les haies, s'occupaient des haies. Mais donc, c'est vraiment, il y a une espèce de symbiose entre l'humain et la nature à cet endroit-là, le vivant, c'est-à-dire que la haie nourrit et en même temps on recèpe, on taille, on change un arbre mort et ces haies sont un écosystème inouï, c'est-à-dire qu'on a tendance à les oublier, elles qui sont coincées entre deux écosystèmes, une forêt, une prairie, une rivière, des jardins, et elles sont spécialement riches en termes de biodiversité. Elles canalisent l'eau, elles créent de l'ombre, elles ont 1000 vertus écologiques. Et en plus, elles ont souvent une terre extrêmement riche puisqu'elles sont entre deux parcelles, qu'elles sont moins cultivées, donc il y a moins de pesticides. Et cette terre riche, avec plantée de plein de strates végétales, retient bien l'eau. Vraiment, il y a plein de fonctions écologiques de la haie. En fait, ce que je trouve extraordinaire dans la haie, c'est pour ça que j'ai parlé d'écosystème compagnon, c'est que c'est à la fois un écosystème extraordinairement riche, c'est-à-dire que quand on a la patience de contempler une haie, on y voit beaucoup de vie. C'est-à-dire qu'on peut regarder, écarter les branches et trouver un nid, des oisillons, il y a les danses de séduction des papillons. Tout ça, c'est un spectacle, en fait. Et si j'avais un souhait, c'est qu'on ait ce rapport au vivant qui ne soit plus sans y penser. C'est-à-dire que je trouve que trop souvent, on traverse justement des bandes boisées, on traverse des jardins sans réaliser à quel point la vie qui s'y crée est précieuse. Elle va devenir de plus en plus précieuse pour nous.
J'imagine que vous voulez réagir, Marc-André Sellos, à cet éloge de la haie, de cet écosystème compagnon, comme le dit joliment Sonia Fairchak.
Oui, avec quelques amis, on a écrit un article dans The Conversation la semaine dernière, justement pour rappeler ces fonctions des haies. Il y en a plein. On peut ajouter à celle que Sonia indique qu'une haie, ça stocke 100 tonnes de carbone par kilomètre. Ouais. Donc c'est bon pour le climat. On peut ajouter aussi que ça réduit de 80% la pression des bioagresseurs parce que les bioagresseurs, c'est-à-dire des champignons ou des insectes parasites, ont du mal à franchir cet obstacle. Mmh, mmh. Qui en plus, pour les insectes, ces obstacles-là abritent des oiseaux qui les mangent ou des chauves-souris qui les mangent. Donc, on a un peu oublié ça parce qu'au moment où on a supprimé les haies dans mon pays, hein, en France, on avait les pesticides. Et donc, on n'a pas vu qu'il y avait cette fonction-là, puisqu'elle était gérée par les pesticides. Aujourd'hui, on veut réduire les pesticides, c'est une perspective intéressante. La haie, elle est multifonctionnelle. Le drame, c'est que les vieilles haies fonctionnent bien mieux que les jeunes.
C'est ce que vous avez démontré dans cet article avec vos confrères de la société de botanique. Planter une nouvelle haie ne compense pas la destruction d'une haie ancienne.
Parce que la vieille haie, elle a recruté tout un tas d'organismes qui font ses fonctions. Et je suis dans un pays où on arrache près de 20 000 km de haies par an et on paye pour replanter 3 000 km de haies par an, donc c'est beaucoup moins, et beaucoup moins fonctionnel, puisque c'est de la jeune haie. Alors là, il y a, je le feuilletais dans le livre de Sonia, il y a une phrase qui est géniale, c'est « La haie assure la connexion d'un passé lointain et d'un avenir à favoriser ». Bon, effectivement, voilà un des cas où on s'aperçoit que dans le passé, on avait fait un truc bien et on l'a oublié. C'est pas toujours le cas. Mm-hmm. Dans le livre, je parle aussi du labour, là, ça c'est pas une bonne idée, techniquement, c'est pas durable. Mm-hmm. Mais en inventoriant le passé, on peut, comme elle dit, effectivement, penser l'avenir. Et ça, c'est très intéressant, c'est la réduction des pesticides, c'est aussi quand vous taillez des tas de petits morceaux qui peuvent vous servir à faire des paillages, donc remplacer des herbicides parce que vous allez couvrir le sol de petits morceaux de bois.
Mais comment se fait-il alors à la fois qu'on a oublié, qu'on s'est coupé de ce monde-là, comme le dit Eric Orsenna dans votre préface, Marc-André Sellos, mais aussi qu'on n'arrive pas à inverser un peu la tendance? Parce que vous dites, on n'avait pas tout compris et maintenant on n'aurait plus rien compris. C'est loin d'être aussi simple que ça. Et on a besoin de nos connaissances scientifiques, on a besoin des naturalistes comme vous d'aller voir, d'observer. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas ou qu'on ne comprenne peut-être pas, ou que nos dirigeants ne comprennent pas qu'il faut vraiment inverser la tendance.
Alors, moi, je ne pense pas que nous possédions la solution idéale. On a la solution aux problèmes actuels. Et je cite une phrase de Lévi-Strauss dans le livre qui dit que ce qu'on appelle le progrès, en gros, c'est ce qui sert à résoudre les problèmes posés par ce qu'on a appelé le progrès juste avant. Et que donc, de ce point de vue-là, ça appellera d'autres progrès ensuite. Alors, c'est très intéressant. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec le vivant, on peut arriver à remplacer certaines fonctions qu'on a gérées de façon chimique. Je pense par exemple à utiliser des phages pour tuer des bactéries à la place des antibiotiques. Ça s'appelle la phagothérapie. Les phages, c'est des virus qui s'attaquent aux bactéries. Donc si vous mettez le bon virus quand vous avez une bactérie qui vous rend malade, ça remplace un antibiotique. C'est plus cher, mais comme c'est plus chirurgical, vous évitez la sélection de résistance.
Ça marche mieux et il n'y a pas de résistance ensuite.
Les haies, c'est une solution basée sur le vivant pour réduire, peut-être pas annuler, mais réduire les pesticides, par exemple.
Donc il y a des solutions. Des solutions aujourd'hui dans le vivant, sous nos yeux.
Oui, sous les yeux des chercheurs. On a vu sortir des cépages de vigne. La vigne, hein, 80% des intrants dans la vigne, c'est des pesticides pour tuer les champignons, mildiou, oïdium. L'INRAE a produit en France et continue de produire des cépages qui ont de multiples résistances, qui sont donc très difficiles, sinon impossibles à contourner pour le mildiou et l'oïdium. Le bilan, c'est qu'on a 7 fois moins de traitements dans ces vignes-là. Et vous voyez, c'est une solution basée sur la diversité génétique et la construction de bonnes souches, de bonnes variétés. Et donc, tout ça, c'est des solutions basées sur le vivant. Or, nous, peut-être que c'est un effet des Lumières, nous croyons qu'aux solutions mécaniques, technologiques, chimiques. Nous ne voyons pas le vivant comme une ressource et un moyen d'agir. Comme on ne l'a pas vu comme ça pendant des siècles, on commence à arriver un petit peu au bout des solutions chimiques et technologiques. On voit qu'elles coûtent beaucoup d'énergie, on voit qu'elles ne sont pas bonnes pour notre santé, les pesticides, il n'y a pas photo. Je donne des chiffres dans le livre, les agriculteurs en sont eux-mêmes la meilleure preuve.
Les premières victimes.
Les maladies bizarres qu'ils ont à des taux inégalés, 50% de lymphome en plus que le reste de la population.
Le cancer.
C'est un cancer, effectivement. L'histoire, c'est que comme on n'a pas exploré le vivant comme solution, si on commence maintenant, il y a des solutions énormes à trouver. Et dans la sélection variétale, dans le mélange d'essence dans la parcelle, à l'agroforesterie, vous avez des solutions, c'est des belles au bois dormant. Puisque ce n'est pas exploré, il y a des leviers énormes à trouver là.
Donc explorer le vivant, mais explorer le vivant à la manière des naturalistes et explorer le vivant sans idées préconçues et sans préjugés non plus. C'est quand même ça qui est à la base, parce que sinon on va faire pareil.
Voir le vivant en lui-même, essayer justement, comme on disait sur les champignons tout à l'heure, de regarder les choses en elles-mêmes. Alors on n'y arrive pas forcément bien, et je vous dis, on fera sans doute des erreurs. Mais quelque part, il y a des marges d'amélioration là énormes, et effectivement, il faut naturalistes, il faut des gens de l'histoire naturelle, il faut des biologistes, il faut des écologues, il faut des évolutionnistes aussi pour comprendre les conséquences dans le temps long, dans la construction du futur. Et aujourd'hui, ils ne sont pas entendus parce qu'aujourd'hui, on pense que, les fondamentaux, avec Eric Orsenna, on avait fait une tribune dans Le Monde pour dénoncer ça, soi-disant, les fondamentaux, ce serait lire, écrire, compter. J'espère que pour vous, qu'il y a des jours où vous ne lisez pas, où vous n'écrivez pas, où vous ne comptez pas.
C'est quoi les fondamentaux, Eric ?
C'est savoir vivre. C'est ça qu'on propose, nous. C'est que tous ces jours-là, vous respirez, vous mangez, vous consommez, vous faites des déchets, vous avez une activité sexuelle qui est aussi quand même quelque chose du registre biologique quelque part. Et tout ça, il faut savoir le faire bien. Et on ne l'apprend pas trop. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Tiens, dans mon pays, en France, on est en train de remplacer les heures dédoublées de cours de sciences naturelles au laboratoire où, parce que les filles qui sont petites, on peut regarder au microscope, disséquer. On met en classe entière pour utiliser les dédoublements de classe pour faire du soutien en français. Alors que, en fait, la solution, c'est quoi ? C'est d'enseigner beaucoup plus le vivant et vous verrez. Tout de suite.
Le vivant,
Le vivant, tout de suite, on se dit, tiens, il faut le décrire, tiens, il faut le peindre, tiens, il faut le dire, tiens, il faut calculer là pour comprendre. Les autres fondamentaux suivront, mais ils suivront incarnés dans un objectif et ils prendront peut-être mieux dans la cervelle des enfants, pour le coup, que si on fait du français pour le français, des maths pour les maths.
En fait, c'est le vivant en premier, nous sommes des vivants, il faut regarder le vivant, l'admirer, s'émerveiller.
Il est évident qu'une génération qui n'a pas été formée au vivant nous a mis dans le mur et a engendré des catastrophes sanitaires, que ce soit à cause de ce qu'on mange ou à cause des maladies et environnementales, terribles. Et donc, il faut former autrement la génération suivante. Je ne suis pas sûr qu'on en prenne le chemin, L'idée, c'est qu'on n'a pas compris que c'est notre lien vivant qui est la chose essentielle. Les sociétés ne sont pas hors nature, l'homme n'est pas hors nature. Ouvrez votre frigo et réfléchissez à tous les écosystèmes dont vous êtes membre par le biais des objets qui ont été rapportés pour vous et dont l'achat que vous avez fait justifie l'extraction, la production dans ces écosystèmes. Vous verrez, il y a plein d'écosystèmes derrière votre frigo et ils nous montrent cette dépendance profonde qui fait que bah, si on ne gère pas ces liens comme des outils et si on n'anticipe pas, si on n'anticipe pas dessus, ils vont juste nous abîmer.
Autour de la question pourquoi et comment s'intéresser au vivant d'abord, comment convier l'humanité dans l'histoire naturelle et pourquoi tout de même certains humains se sont peut-être un peu moins coupés de la nature que d'autres, je vous propose Marc-André Sellas un nouvel éclairage vu d'ailleurs, vu du Burkina Faso. C'est celui d'un chercheur aux multiples casquettes, Zakaria Tiemtoré de l'École normale supérieure du Burkina. Il est très engagé au Burkina, à la fois pour l'éducation, le développement durable et la paix, sacré chantier. Lors de son passage à Paris, Zakaria nous a laissé cette réflexion. En écho à votre démarche, on l'écoute.
Dans les philosophies africaines, en tout cas dans la façon de concevoir le monde, il y a, on va dire, ce mélange entre l'humain et la nature. En fait, il n'y a pas d'une part l'humain et de l'autre donc la nature. L'humain vit avec la nature. De sorte que lorsque vous allez enlever une partie de la nature, vous demandez pardon avant de le faire. Et vous veillez en fait à ce que vous avez enlevé soit remplacé. Avec les évolutions, l'humain a pris donc le dessus, pense que la nature est adomptée. Et ceci me fait penser aussi à une autre façon de faire, où on dit souvent que les Africains, donc en tout cas ceux des Suds, ne sont pas forcément dans l'accumulation. C'est-à-dire que vivre au jour le jour, c'est vu comme ça et parfois c'est vu comme un défaut. Alors que ceci est quelque chose qui est très ancré dans les modes de vie. Vous allez aller prélever quelque chose juste parce que vous en avez besoin, mais pas plus que ce dont vous avez besoin. On retrouve ça dans nos cultures, on retrouve ça aussi en partie en Asie. Je pense par exemple aux légendes de la gourmandise du tapir, ne pas enlever à la forêt plus que ce dont on a besoin. Et donc derrière ça, cette question sur les sciences naturelles et le vivant ou l'humain, je crois que nous rappelle en fait une conception de l'humain. C'est quoi l'humain en fait? Il y a peut-être quelque chose à trouver, quelque chose à construire. Et ça passe par regarder un peu toutes ces philosophies, ce rapport à la nature et comment en tant qu'être humain, on trouve sa place dans ce grand écosystème.
Qu'en pensez-vous? Que vous inspire cet éclairage, Marc-André?
Cette dernière phrase, c'est la phrase clé. C'est un peu le résumé de ma tentative. Alors moi, je ne dis pas que j'ai la solution, mais je propose des pistes.
En tant qu'être humain, comment on trouve sa place dans ce grand écosystème?
Mais oui, convier l'humanité dans l'histoire naturelle.
C'est ça, hein.
Alors là, oui, il y a quelque chose qui est tout à fait exact. Et moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Et des fois, je me dis qu'il faudrait que je creuse cet aspect-là. C'est qu'effectivement, il y a un côté culturel dans notre lien au monde. Et ça, Philippe Descola l'a bien il a fait une typologie tout à fait convaincante.
Ethnologue, Philippe Descola, au-delà de nature et de culture. Par-delà la nature et la culture.
Voilà, par-delà la nature et la culture. Et en fait, il fait une typologie des liens à la nature. On voit très bien qu'il y a des philosophies, il y a des cosmogonies animistes, par exemple, où il n'y a pas de disjonction entre nature et société. Il n'y a pas non plus de rapport de hiérarchie, comme on a un petit peu nous dans la tête. Donc, effectivement, ce n'est pas une fatalité. Force est de constater que chez nous, ça l'est devenu. Et je pense qu'il y a aussi des choses dans l'organisation de nos sociétés occidentales qu'on exporte un peu partout qui ne facilitent pas la chose. Il y a un chiffre qui est assez étonnant, c'est cette idée que quand on regarde la distance de l'habitat d'un Français moyen ou d'un humain moyen à l'endroit de nature spontanée le plus proche, cette distance, en 20 ans, elle a augmenté de 640 mètres en moyenne sur le globe.
On s'est éloigné. Hein.
On s'est éloigné, voilà. Ouais. Et ça, chez nous, la distance moyenne, c'est 16 km en France. C'est 22 km en Allemagne.
Avec
oui, parce qu'on est tous en ville.
Ouais.
Et ce n'est pas pour quelques-uns qui vivent au milieu d'une nature quasi spontanée que la plupart d'entre nous ne sont pas loin de ça. Si vous habitez au milieu de Paris ou même en banlieue parisienne, eh bien, vous êtes très, très loin de la nature spontanée. Et donc, quelque part en plus, la capacité de re-questionner les idées reçues, elle diminue parce que la nature, nous ne l'observons plus. Elle nous est servie dans des barquettes de poissons cubiques. Mmh. Elle nous est servie dans des spots publicitaires. Elle nous est servie dans des chansons. Elle, nous n'avons plus un lien direct à l'observation. Un lien direct qui peut amener à questionner les choses. Je suis étonné, quand je fais beaucoup de formations d'agriculteurs suite à mon dernier livre qui portait sur le sol. Et je suis frappé de voir que les agriculteurs, il y en a beaucoup qui se sont posés la question de la pertinence du geste du labour, de la pertinence des engrais minéraux, de la pertinence des pesticides, et qui essaient de trouver des solutions agricoles alternatives. Parce qu'ils ont les yeux dessus. Et donc, quelques petits détails ne peuvent pas leur échapper, qui soulignent bien que c'est pas une solution parfaite. Et donc, je pense que nos sociétés qui sont de plus en plus urbaines, nos villes qui grandissent, ne nous aident pas à réduire cette distance. Et comme je disais tout à l'heure, en plus, on ne le prend pas en charge dans l'éducation. Donc c'est parti pour être raté encore au coup suivant.
Mais vous dites aussi, Marc-André Sellos, que nous devons faire attention au niveau, parmi nos idées reçues, l'évolution, on évolue tous en même temps. Et donc vous n'aimez pas du tout ce vocabulaire de peuple premier ou de peuple racine. Ah oui. Donc attention aussi à ne pas aller dans les préjugés dans tous les sens, à ne pas rester collé ou à appliquer une grille qui nous va pour le moment, mais qui est fausse aussi.
Alors je suis content que vous abordiez ce point, parce qu'en fait, c'est peut-être l'endroit où on peut le mieux comprendre qu'il n'y a pas de différence entre l'évolution biologique et l'évolution culturelle. Dans tous les cas, vous avez de la diversité, il y a des trucs, des idées, des pratiques plus ou moins adaptées, ça survit, on l'enseigne à la génération suivante, et si vous avez enseigné, vous savez que c'est pas parfait, donc vous reproduisez pas ce qui est adapté, mais un peu de floutage, un peu de bruit, donc une nouvelle diversité sur laquelle, de nouveau, il y a une sélection.
C'est dans exactement... l'évolution culturelle comme dans l'évolution biologique.
Exactement. Et ça, ça fait que dans tous les cas, on ne peut pas cesser d'évoluer, ne fût-ce que parce que le milieu change, et puis ceux avec qui on interagit, que ce soit les sociétés voisines ou les espèces voisines, quand on est dans l'évolution biologique, évoluent aussi. Donc il faut s'adapter à ce qu'elles sont devenues, à celles qui essaient de nous parasiter ou de nous utiliser, par exemple. Il faut s'adapter en permanence, il faut évoluer en permanence. Et donc, il n'y a pas de fossiles vivants. Tous les organismes ont évolué. Alors, bon, bien sûr, il y a quelques organismes actuels qui ressemblent morphologiquement à des trucs qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années.
Mais on est tous au même niveau d'évolution.
Pareils, en fait. Oui, c'est ça. Et même d'ailleurs, si vous regardez bien le détail anatomique, c'est pas tout à fait pareil. De la même façon, toutes les sociétés, toutes les cultures ont évolué. Alors, on se débat avec ça, on dit, ah oui, on va pas dire société primitive. Ben non, parce que plus personne n'est primitif, on est tous évolués dans des directions différentes. Mmh. Alors, on va dire premier. Ben maintenant, premier, non. Premier, c'est passé. Racine. Ben, racine de quoi? Je veux dire, on est tous à la même distance de la racine. Non, non, en fait, on est tous évolués, mais pas dans la même direction. Et si on regarde bien, il y a une autre chose qui est très intéressante. Quand on regarde la diversité des organismes évolués autour de nous, les organismes vivants, on s'aperçoit qu'ils réussissent des trucs bien et d'autres moins bien. Genre, par exemple, il y a des oiseaux qui volent très bien, mais l'atterrissage, c'est un peu le foutoir. Bon, et ben, c'est pareil que pour les sociétés, il y en a qui, elles ont toutes un mélange de réussite et de raté. Et donc,
c'est
si on regarde les sociétés comme le produit d'une évolution culturelle qui est la même chose que le produit de l'évolution biologique, bah, rien n'est parfait. Tiens, rien n'est bien fait.
Rien n'est bien fait, rien n'est parfait.
Tout est un mélange de trucs qui marchent et de trucs qui ne marchent pas très bien.
Et tout est en interaction, en interdépendance, en interaction, en mouvement.
Et ensuite, tout est en interaction. C'est pour ça que faire des murs, il n'y a que les cons qui pensent qu'ils croient au mur. Hein. Je vous rappelle le point commun. Parce que le mur, c'est santé de ne pas interagir avec les autres. Je vous rappelle le point commun entre le limès romain et la muraille de Chine, c'est que les gens qui habitent maintenant à l'intérieur du mur, même si le mur n'existe plus beaucoup, c'est ceux qui étaient censés rester dehors. L'interaction est inévitable, que ce soit biologiquement ou culturellement.
Donc pas la
et
peine
encore
de faire des murs.
Un point commun entre la culture et le vivant.
C'est
au
ça,
fond,
ça, marche
ça, ça nous dit que la culture, c'est un morceau du vivant. C'est encore une façon de recoller l'homme et la nature que de dire que la culture et son évolution, c'est comme le vivant et son évolution, ça suit les mêmes règles, et notamment d'évoluer perpétuellement, et notamment d'évoluer grâce à l'interaction.
Grâce à l'interaction, grâce à l'interdépendance, à méditer, à l'écoute d'un très joli et inspirant morceau, extrait de la playlist du mois sur RFI, signé Marion Rampal et Bertrand Belin. Presque une invitation à aller dans la nature de beau dimanche sur RFI.
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues? Mon s'accrocher à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras, deux pas pour le bas, trois sur le côté. passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire de beau dimanche, sans faire de beau dimanche. 12 heures puis le reste en nous ça tourne à travers le temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel et tourner mon ombrelle, ça n'était qu'un doux rêve.
Passer de beaux dimanches sur RFI, Marion Rampal et Bertrand Belin dans la playlist du mois. Autour de la question comment convier l'humanité dans l'histoire naturelle, Marc-André Sellos, c'est le sous-titre de votre ouvrage Nature et préjugés, nouvelle et dernière question posée par mon confrère François Lassagne, rédacteur en chef du mensuel Pour la Science.
Cher Marc-André, le livre que vous venez de publier fait un très grand tour passionnant de la place du vivant dans la vie des humains. Pourquoi c'est important, ce que l'on en sait, ce que l'on ignore encore. Et vous mettez l'accent sur la grande nécessité qu'il y a à mieux connaître le vivant et mieux connaître notre rapport au vivant pour mieux vivre, tout simplement. C'est évidemment une voie à suivre, a priori. Si on veut la traduire dans des classes de secondaire en biologie, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'impérieux? Quelle est la première action à faire dans un programme de biologie pour que le rapport au vivant s'installe correctement dans les têtes des jeunes élèves?
À vous de répondre, cher professeur Marc-André.
C'est une vaste question. Alors déjà, l'enseignement ne commence pas dans le secondaire, il commence avant, dans le primaire. Et c'est vraiment important que dans le primaire, on ait déjà une sensibilisation au vivant. Il ne s'agit pas d'apprendre des théories écologiques ou évolutives.
Non, c'est pas ça. Hein.
Il s'agit de s'approcher des objets, de les sentir, de les voir, de façon à avoir des questions à poser. Et dans le secondaire, on répondra à ces questions. On pourra commencer à répondre à certaines dans le primaire. Pourquoi il y a des pépins dans une orange? C'est quand même super intéressant.
Parce que c'est pourquoi il y a des vers dans la terre? Et pourquoi il y a des vers dans la terre?
Donc, le pourquoi, il viendra une fois que l'enfant aura vu la chose. Ici, on comprend qu'on a moins besoin de scientifiques, peut-être au primaire, au passage, que l'artiste, par exemple.
Ah oui, pour les voir, pour les dessiner. Pour
oui, ou de matière artistique. Dessine une pomme, une fois que tu l'as dessinée, il y a plein de parties. Tiens, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as fait ce trait-là? Qu'est-ce que ça représente, le fait qu'il y ait une queue sur la pomme?
Bon. Et rappeler qu'une pomme, c'est vivant, qu'une plante, c'est vivant.
Ben voilà. Donc, cette première approche, c'est le problème de la sensibilisation. Elle n'est pas, et d'un début de compréhension, c'est pas acquis en amont. Bon. Dans le secondaire, il y a une heure par semaine ou deux. Bon, c'est vraiment rien. Enfin, une heure et demie, c'est rien. En plus, les dédoublements de classe sont vraiment mis en péril aujourd'hui parce qu'on utilise les dédoublements de classe non plus pour faire des travaux pratiques en petits groupes, mais pour faire du soutien de français ou de maths, donc c'est l'ordre total. Et puis en première et en terminale, en France, par exemple, ça devient optionnel. Et c'est en plus, il y a ce poids de se dire, il y a les matières de sélection, les fameux fondamentaux, les maths et la physique. Et aujourd'hui, dans mon pays, on voit des gamins qui veulent devenir médecins, ou qui veulent devenir agronomes, prendre en option de terminale, parmi les deux options, maths et physique, pour être sûr d'avoir les matières de sélection. Mais enfin, c'est aberrant. On ne peut pas sélectionner sur les matières de savoir-faire.
Vous voulez, c'est ça, des sciences naturelles.
Mais moi, je veux la peau des disciplines. Je veux la peau des maths qui sont l'équivalent de ce qu'ont été les études de lettres anciennes dans les années 20 à 50 en France, où il fallait parler grec, latin et plein de langues éteintes pour avoir accès au bon diplôme et au métier.
Vous tout voulez, ça, Marc-André
c'est de
Silos,
la connerie.
Ce que je veux,
c'est qu'on ait la compétence requise. Et pour ça, on sélectionne sur la compétence.
Donc, savoir dessiner une pomme, fouler le sol, regarder les animaux et le vivant.
Plus d'heures pour leur donner un sens dans le secondaire. et une place vraiment à la hauteur de ces disciplines-là, parce que c'est vital. Une fois de plus, la génération précédente qui n'avait pas cette formation, elle a, disons-le, profondément merdé dans l'environnement et la santé. Je vais continuer.
Je vous cite, un autre lien au vivant pourrait nous sauver de nos errements. C'est fort et c'est franchement le meilleur qu'on puisse se souhaiter.
Ben, moi, si j'écris ce livre, c'est parce que j'ai un enfant. D'ailleurs, on le devine à un certain moment.
À la fin, il vous aide à terminer l'ouvrage, mais je ne dirai pas comment.
Mais à 3 ans et demi, quand même, être publié, c'est assez original.
On ne dit rien.
C'est votre jugement, mais on laissera le lecteur juger. Mais n'empêche que la chose importante, hein, c'est que ce qu'on peut faire de mieux, c'est d'aimer nos enfants. Et quelque part, moi, j'écris ça parce que je pense qu'on peut justement agir mieux pour eux, les former mieux, préparer l'environnement mieux pour eux. Et effectivement, le vivant est un levier qu'on n'a pas encore exploré et il peut nous permettre de faire de grandes choses et aussi de bien voir ce qu'on ne peut plus continuer à faire.
C'est ça. Hein. Vive le vivant. Merci Marc-André Sellos d'être venu en direct dans notre studio autour de cet ouvrage formidable, inspirant, décapant parfois tout de même. Hein. Je rappelle son titre, Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle, avec une préface d'Éric Orsenna aux éditions Actes Sud. Et on ne peut pas se quitter sans écouter un petit extrait d'une des musiques qui vous inspire justement et qui fait du bien, par où ça passe. Vous avez choisi le premier mouvement joué léger du quintet de Rimsky-Korsakov. Juste pour le plaisir, on se quitte là-dessus.
Ah oui, parce que c'est léger.
Sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question sur Rimsky-Korsakov, merci Marc-André Sellos, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion ce soir à 23h, temps universel, et on se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour parler d'un organe qui nous sert à parler, justement, la langue. Autour de la question, pourquoi la langue est l'organe le mieux partagé, non seulement par les humains, mais aussi évidemment par beaucoup de vivants, les caméléons, les oiseaux, les primates, par exemple. La langue organe dans tous ses états, c'est à ne pas manquer demain. En direct sur RFI, avec David Brocouet à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Un grand merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles et à tous les vivants. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des infos.